Le ZARP qu'il y avait en 1950, c'est par exemple ces alignements de gros chênes qui se trouvent autour des parcelles agricoles qui se trouvaient, elles, autour des hameaux. Et partout ailleurs, c'était des zones de parcours pour les troupeaux, donc des landes, qui étaient pâturées par les troupeaux et qui, lors de la déprise agricole, ont été abandonnées et soit ont été recolonisées par de la forêt naturelle, en régénération naturelle. Comme vous avez derrière vous, de l'autre côté du champ, c'est une chênaie en régie naturelle. Ou alors, ça a été utilisé par les propriétaires pour faire de la plantation de résineux.
Il imprègne pas mal le paysage.
Les chênes, là, ils ont à peu près tous le même âge. Ils ont à peu près tous les branches au sommet du tronc. Et pas qui s'étalent dès la base comme celui qu'a la cabane. Ou ceux de bordure. Donc ça veut dire qu'ils ont tous poussé à peu près en même temps, et comme ils étaient en compétition pour la lumière, ils ont été chercher la lumière au-dessus et pas autour. Et vu leur taille, c'est des arbres qui ont 40-50 ans. Comme c'est des chênes, ils ont poussé à un endroit où il y avait de la lumière. Et quand on regarde les photos aériennes de la ferme en 1950, ben là, il n'y avait pas de forêt. Donc ils ont poussé sur une ancienne zone de parcours qui a été laissée à l'abandon, et les chênes se sont réinstallés tout seuls. Et comme les bestiaux ont arrêté apparemment de parcourir le secteur à un moment bien précis, bah, tous les glands de cette cohorte ont germé, puis ça a donné une forêt de chênes du même âge, ce qu'on appelle un accru, une forêt en régénération naturelle.
Il y a plein de semis de hêtres qui se préparent, tu as des petits hêtres comme ça. Mais par contre, eux, ils vont devoir attendre des plombes, parce que là, les chênes, ils sont récents, et avant qu'il y ait des trous et qu'ils se fassent pour laisser de la place aux hêtres, il ne va rien se passer. Donc si des hêtres germaient là maintenant, c'est des hêtres qui un jour ou l'autre dépériraient. Et du coup, la plupart des forêts naturelles de feuillus sur le plateau, c'est des forêts de jeunes chênes à peu près de cet âge-là, des forêts d'accrues. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que dessus, alors, il y en avait un qui était mieux que ça, je vais essayer de vous le trouver. Ça, c'est des lobaria, il y en a deux espèces. Une qui est beaucoup plus grosse avec le tal vert laitu, on verra peut-être tout à l'heure. C'est l'Obaria pulmonaria. Et puis celui-là qui a le taille un peu gris avec les lobes arrondis, c'est l'Obaria scrobiculata. Et alors ça, c'est rigolo parce que c'est des lichens qui poussent sur les écorces des arbres et qui sont considérés généralement en écologie comme des indicateurs de deux choses. Petit 1, la qualité de l'atmosphère. Dès qu'il y a de la pollution au soufre dans l'atmosphère, il décanille. Donc c'est fait partie des plus sensibles à la pollution atmosphérique. Donc là déjà, on sait qu'on respire un air pur. Et puis après, ils sont considérés comme des indicateurs de la continuité forestière. C'est-à-dire qu'ils se développent bien dans les forêts qui ne sont pas perturbées dans l'espace et dans le temps. Donc des vieilles forêts auxquelles on fout la paix pendant des siècles. Sauf qu'il y en a ici. Alors qu'ici, il y a 50 ans, il n'y a pas de forêt. Et que les forêts sur le plateau de Mille Vaches étaient complètement exiguës. Donc le problème, c'est de savoir comment ça se fait qu'ils ont réussi à se réinstaller. Et donc quand on regarde géographiquement où est-ce que ces lichens qui poussent sur des arbres, des chênes récents, sont positionnés dans l'espace, on voit en fait qu'ils sont toujours, ils ont toujours réussi à coloniser des arbres jeunes à partir du moment où ces derniers ne sont pas distants à plus de 80 mètres d'un arbre ancien, c'est-à-dire d'un arbre qui était déjà présent dans le paysage en 1950. Et donc les arbres anciens, comme celui où il y a la cabane, ou le gros qu'on voit là, avec les branches horizontales, c'était des arbres isolés qui étaient en périphérie de parcelles agricoles, et qui servaient de réservoir de biodiversité pour ces lichens à titre d'exemple, mais aussi pour plein d'insectes considérés comme des indicateurs de forêt de qualité. Donc c'est là-dedans que toute la biodiversité s'est concentrée à une époque où il n'y a quasiment pas de forêt sur le plateau de Mille Vaches. Et maintenant que la forêt naturelle recolonise le territoire par ces petits peuplements de chênes récents, c'est à partir de ces centres-là que le milieu est recolonisé par tous ces organismes. Et ça pose un problème de conservation parce que les anciens arbres, qui sont du coup les réservoirs de biodiversité, dans une autre région, on les verrait dans le paysage, ils constitueraient des haies. Et les haies, il y a plein de programmes de conservation pour ces dernières, parce qu'on a bien compris que c'était des éléments clés pour plein de bestioles et de plantes. Alors que là, on ne les voit pas, parce qu'ils sont masqués dans le paysage par leurs propres rejetons qui ont poussé autour d'eux et qui les noient. Donc du coup, tout le monde s'en fout.
qui fait que quand un jeune peuplement de chênes est coupé pour faire du bois de chauffage ou du bois énergie, ben, que ce soit des jeunes chênes ou des vieux de bordure qui sont présents dans le peuplement, tout le monde y passe. Et quand tu coupes un vieil arbre comme ça, ben, tu coupes en fait un réservoir de biodiversité dont dépend toute la colonisation de milieux forestiers dans la région. On ne les voit pas, ils n'existent pas.
Donc là, progressivement, ces gros mastodontes ils vont se casser la figure, réouvrir le milieu, puis ça repartira dans une autre direction. Si les chênes ne tombent pas et continuent leur vie, ben, les jeunes hêtres dépérissent et puis claque, quoi. Mais en tout cas, tout le temps, tu vas avoir du semis de hêtres qui va tenter sa chance jusqu'au moment où tu as une trouée. Ce qui fait qu'après une chênaie, progressivement, les chênes vont être remplacés par des hêtres. Une fois que les hêtres ont atteint leur stade de sénescence, comme c'est ici le cas, eh ben, ils vont crever, tomber au sol. Comme ils sont gigantesques, ils vont faire une grosse trouée de lumière autour d'eux en emmenant leurs confrères qui sont au voisinage. Et puis du coup, comme ça va faire une trouée et la lumière s'engouffre, ben, ce ne sera pas du hêtre qui pourra se développer, mais ce sera du chêne. Eh ben, là, il n'est pas en gestion. Et donc du coup, le cycle a pu se faire tout seul, ce qui fait que c'est un micro-patch de hêtraies anciennes. Parce que justement, le bois mort, ça fait partie des compartiments super importants dans la forêt, à peu près entre un quart et un tiers des espèces forestières qui sont dans le bois mort. Donc dans une forêt gérée où tout le bois est exploité avant ses naissances, eh ben, le bois mort, t'en as quasiment pas. Forêt gérée en France, t'as moins de 5 mètres cubes de bois mort à l'hectare. Une forêt naturelle, c'est centaines de mètres cubes, quoi. Et là-dedans, il y a plein de bestioles, d'insectes, de champignons qui se développent et qui ont besoin d'une quantité de bois mort minimale pour pouvoir se maintenir dans le paysage, et puis aussi qu'il y en ait un peu tout le temps, partout, à proximité. Parce que le bois mort, c'est une ressource qui est disponible peu de temps à un moment donné, et au bout de quelques années ou une grosse décennie, ou peut-être un peu plus, le bois a terminé son processus de décomposition, et les bestioles qui vivaient dedans, et qui correspondent chacune à un stade de décomposition très particulier, une fois que ce stade est dépassé, il va falloir qu'elles trouvent à proximité un autre bois mort pour s'y installer. Et s'il n'y a pas du coup suffisamment de quantité, de diversité et de proximité entre les différentes sources de bois mort, bah, ces populations s'éteignent parce que ça ne peut pas fonctionner. Donc là, ça sonne bizarre. Charge les petites bêtes dans le champignon. Les petites bêtes qui vivent que là-dedans. Alors, donc si une forêt où tu as plein de bois morts et plein de champignons comme ça, ça fonctionne. Ah, voilà. Tout petit, hein. C'est Boletophagus reticulatus. Il fait tout son cycle dans le champignon de bois, là, dans le faumès. Et donc du coup, lui aussi, il a besoin de plein d'arbres morts avec plein de faumès en assez grande quantité pour pouvoir se maintenir. Et vous voyez, sur ces élytres, on a l'impression qu'il y a des petits granules. En fait, les petits granules, c'est des acariens. Dans ces élytres, il y a plein de petites cupules, les unes derrière les autres. Et dans chaque cupule, tu as un petit acarien qui se loge, parce que l'acarien, il fait aussi son cycle dans le champignon, mais par contre, lui, il ne peut pas s'envoler d'un champignon à l'autre. Donc pour faire s'envoler d'un champignon à l'autre, il utilise le Boletophagus. Et du coup, par exemple, il y a toute une famille de punaises qui vit uniquement dans ces champignons-là et qui est plutôt mal en point en voie d'extinction parce que les forêts gérées n'ont pas suffisamment d'arbres morts avec plein de champignons dessus. Alors, oui et non, parce que les souches en coupe rase, elles n'ont aucun intérêt. Enfin, je caricature un peu, mais quand même. Parce que comme c'est des souches qui sont en plein cagnard, il n'y a pas beaucoup de bestioles ou des bestioles très particulières et banales qui arrivent à se développer dedans. Tu vois, le climat, il n'est pas tamponné. Alors qu'un arbre mort qui tombe en lisière forestière ou dans une forêt, tu as de l'humidité constamment, des sautes de température faibles, et donc du coup, c'est des milieux intéressants pour le développement de pas mal de bestioles. Mais t'imagines, dans un andin, les sauts de température qu'il y a entre cagnard nuit. Ben, laisser les souches des couperas, c'est pour contribuer à la restitution des éléments au sol. Par contre, une forêt qui fonctionne, il n'y a que les forêts anciennes climatiques qui restituent ce qu'elles ont pris au milieu, où ça s'équilibre naturellement. Une jeune forêt en pleine croissance, déjà, c'est déséquilibré. Elle pond plus qu'elle ne restitue en forme de feuilles ou de bois mort. Donc si tu exploites la forêt puise plus qu'elle restitue, si toi tu la coupes pour l'exploiter, eh ben, tu vires tout ce qu'elle a pris et du coup le sol s'appauvrit. Les forêts climatiques restituent ce qu'elles ont pris, mais si toi t'exploites, ben, t'en prends une grosse partie. Et si tu laisses même pas les souches, ben, t'en prends encore plus que ce que tu aurais fait dans des conditions moins intensif, quoi.
vider un grand cerf, viscères gantées, la brute fine, macère vissée au talus. Il reste tant de travail et de bruit qu'il faudra veiller. À vider un grand cerf. Oh, toutes ces saintes journées, à vider un grand cerf. Ce n'est que justice, justice têtue. Le champ cerné bruisse de son contour. Une machine à rebrancher à la ligne des hommes. Relâche, toutes ces saintes journées, à vider un grand cerf.
Vous avez un nouveau message.
En fait, pour moi, je pense que la forêt, c'est plein d'odeurs. Et j'ai pensé à ça en respirant quelqu'un hier soir et en trouvant qu'il sentait la forêt. Et ça l'a fait rire, mais en fait, c'était vrai. Je pense qu'il sentait une odeur un peu végétale et un peu musquée. Et un peu forte aussi, mais agréable. Et je crois que la forêt, ça fait d'abord penser à une sorte de sas dans lequel on pénètre et où on est d'abord pris par des odeurs qui vont avec une sorte de changement dans l'atmosphère. Et il fait plus frais, il fait plus sombre, et ça sent tout un tas d'odeurs, des odeurs de bois qui sèche ou qui se décompose, des odeurs de végétaux parfois qu'on trouve et qui sentent, des odeurs aussi de cadavres, d'animaux sauvages en décomposition. Et c'est un peu comme un corps humain, en fait. Ça sent plein d'odeurs.
Pour passer au message suivant, tapez dièse. Pour effacer ce message, tapez 2.
Si on lui dit forêt, elle répond : la forêt, c'est un abri. Des centaines de possibilités. De la nourriture, des médicaments, la possibilité de vivre, la liberté, des ressources. Ça permet de respirer l'oxygène. Mieux. D'être tranquille, vivre et voir de l'espace, même sombre. Je pense à l'idée de sécurité, à la vie même, beaucoup de vie. J'y vois beaucoup de vie. Des saisons quasi invisibles, de la coexistence et une vie en accord avec la nature. Moi, en revanche, ce serait plutôt en fait un petit bois. Un petit bois de mon enfance, au-dessus du village, à côté du cimetière et à côté de l'école. Un petit bois dans lequel on allait après les cours, quand j'étais enfant. Et donc dans ce petit bois, c'était pas une immense forêt, c'était un petit bois, sur une butte. Mais qui nous faisait un peu peur. Et donc au-dessus de ce petit bois, c'était sur un petit monticule, on avait fait, bien entendu, avec nos copains, des cabanes, des petites cabanes, et on était il y avait deux groupes de copains, mais on n'était pas très copains, justement. Moi, j'avais un petit groupe de copains, 5 ou 6 copains, puis il y avait d'autres copains qui faisaient une cabane à un autre coin, et on jouait à la guerre, en fait. Donc, dans cette forêt, on avait une planque, pour cacher nos armes, fabriquer nos arcs nous-mêmes, avec des flèches qu'on taillait. Ça faisait mal quand on recevait une flèche, hein. C'était même dangereux, parce que un jour j'ai un copain qui a reçu une flèche dans son œil, et donc c'était un univers quand même un peu brutal, un univers un peu de bagarre aussi. Et en même temps, ce qui était très agréable pour moi, c'est qu'on avait notre cabane et il se trouve que j'étais le chef. Donc ça, j'étais content d'être le chef de la bande. C'est moi qui décidais des guerres contre les copains ou pas. Et puis alors, surtout, quand on avait fini une guerre, on fumait. On devait avoir 7, 8 ans, 10 ans peut-être, et on avait volé une pipe à mon père, et un copain avait acheté du tabac ou avait piqué des cigarettes à sa mère, je ne sais plus. Et donc on bourrait cette pipe avec du tabac et on fumait le calumet de la paix, on se passait la pipe comme à la télé, quoi. On faisait comme à la télé. C'était très, très rigolo, mais c'était pas forcément... c'était parfois très violent, notre histoire de forêt.
Peau d'âne, Catherine déjà, des robes de saison toutes plus merveilleuses les unes que les autres. J'aimais particulièrement la dorée. Je me souviens de la tante qui donnait des conseils avec une baguette magique et je ne sais pas quel insecte qui lui tournait autour dans le jardin. Du père, je me souviens peu finalement. La cabane, oui, elle ressemblait à celle où entraient les 7 nains après le boulot des pierres précieuses. En revanche, je me souviens plus de ce qui entrait dans cette cabane, je veux dire celle de peau d'âne.
It's a marvelous light. All the sun, all the moon, all the castles that you built. Come look, it's a marvelous night. All the stars, they would illuminate the grimmest of nights. In the city that you don't even like.
Que vous soyez brindille ou buisson, retrouvez tout de suite l'arbroscope de Vénus. Cette semaine, c'est la rentrée. Place au marronnier. Voici venu le temps des cartables et de la douce odeur des protèges cahiers. Ne faites pas cette tête, on n'est jamais mieux habillé que pendant la mi-saison. Les feuilles changent de couleur, inspirez-vous de la gamme colorée du moment et surtout, haut les cœurs, l'été n'est plus qu'à J-300.
Précédemment, dans la réelle sève.
Tu désires entrer, peut-être.
Vous essayez de me séduire ?
Oui.
Ça ne marche pas sur moi. Et pourquoi ? Je sais pas, c'est comme ça. Douglas est là ?
Laissez-la entrer. Pam, laisse-la entrer.
Oh merde, il est là. Et mon cul ?
Il s'en est déjà bien occupé.
Excusez-nous, mais Douglas et moi, on a une affaire à régler.
Où as-tu trouvé ça ?
Putain, elle sent super bon. Et dire qu'il y a 5 minutes, tu nous vantais les mérites du dioxyde de carbone synthétique, espèce de frimeur.
C'est étrange, Sip. Elle a l'air vierge.
Ça ne te regarde pas, sale fouineuse.
Bien sûr que si, mon petit chou. Tu sais pourquoi ? Parce que le dioxyde de carbone des vierges est le meilleur qui soit. Enfin, presque. Le meilleur, c'est...
Celui des bébés. Rien que d'y penser, ça me fait bander.
Stop !
Oh.
Silva est à moi.
Allez, on remballe tout.
Oublie la peur, petit chasseur. Oublie-la. Oublie la peur, petit chasseur. Ton père, la peur, oublie. Oublie-la. Ton père est un soleil noir. Le fauconnier est posté. Oublie la peur, petit chasseur. Le fauconnier est posté. Et la forêt s'est égarée. Soigne ta droite. Soigne ta droite, petit chasseur. Ton père, un soleil noir. Profite de la lumière. La peur du noir, petit chasseur. Ton père est un soleil noir. Le noir n'existe pas. Et l'ambulance est morte dans ses bras. Le fauconnier est posté. La peur, petit chasseur, la peur. Profite de la lumière. Ton père, un soleil noir. Ton père est un soleil noir. Oublie la peur, petit, petit chasseur. Oublie-la. Oublie la peur. La forêt s'est égarée. Oublie le noir. Oublie la peur, petit chasseur. Le fauconnier est posté. Le fauconnier est posté. La peur, petit chasseur.